Coucou Gigi. Ça va, tu vas bien? Ça se passe bien. Et quoi les camins? Ça va, Camilla? Tu vas bien? Ça se passe?
Au café du 1er mai, Raoul et Debeau en discussion avec Jamila et Gerardo.
Ça va et toi?
Bah écoute, content de vous voir.
Moi aussi.
Ah, que ça fait un bout de temps là.
Oui, hein.
On a déjà pris à boire, ouais.
Petit café pour moi.
Ah, bah je vais prendre un café aussi, moi. Gigi, je vais prendre un café, hein.
C'est le diesel du matin, un café, hein.
Écoute, ne m'en parle pas de diesel, quoi. Non, franchement, Jamila, ce matin, je viens avec ma bagnole, je fais le plein d'essence, mais il y a 92 euros.
Tu t'es fait braquer.
Ah, bah écoute, je me suis fait braquer à la pompe, quoi. 92 euros, j'ai pas encore fait un kilomètre du matin. Non, ça va pas, hein.
Tu t'es fait braquer, moi, je suis électrocuté, on m'a électrocuté. Je suis Jamila et je suis aide-soignante en maison de repos. Et j'ai deux enfants. Il y a quelques semaines, voilà, déjà j'ai reçu une facture, un supplément pour l'électricité qui est de 359 euros. On peut montrer mon nom. J'ai 359 euros à payer. 359 euros à payer en plus d'électricité, alors que je mets déjà à peu près 150 boules par mois. Et ce matin, diline mon compteur. Comme c'est un compteur à budget, il prévient. Hein. J'avais déjà mis plus de 100 boules et ça fait même pas un mois.
Ouais, on se fait vraiment braquer partout.
Et comment on dit, c'est plus possible. Hein.
C'est fou. Hein.
Et ouais, comment
je peux t'en parler parce que je travaille dans le secteur de l'énergie. Moi, c'est Gerardo Napoletano. Donc, je suis délégué d'entreprise et travaille dans le secteur électrique et qui débouche aussi sur l'énergie. Père de deux enfants. On parle d'énergie, il y a l'alimentation. Il y a les transports, c'est vraiment un tout. On est vraiment à l'agonie dans tous les domaines. Les gros mangent même encore les plus gros. Mm-hmm. Donc il y a les OPA qui se font et c'est vrai qu'on n'a plus aucun contrôle. Hein. Mm-hmm. Plus aucun contrôle, que ce soit le gaz, l'électricité. Mm-hmm. Et donc c'est vrai qu'ils nous tiennent à la gorge avec tout ça. Hein.
Et le pire, hein, c'est qu'ils nous ont vendu ça comme étant, c'était quoi encore? La libéralisation du secteur allait faire chuter les prix. Ça, nous ont tous vendu ça. Ouais, la concurrence, ça va faire chuter les prix. Rien du tout. Hein.
La concurrence.
Que...
Oui.
Ouais, c'est exactement. Parce que la concurrence, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que les grands, ils ont bouffé les petits. 247 fusions d'entreprises ces dernières années qui ont fait qu'il y a quelques multinationales qui contrôlent tout le secteur. Et ils bouffent tout, ils contrôlent tout, ils se font des milliards dans leur poche, etc. Et il n'y a pas du tout des baisses de prix, que du contraire, il y a des augmentations de bénéfices pour toutes ces multinationales. C'est fou, hein.
Écoute, moi, je fais le tri entre mes factures. Je paye, comme je t'avais dit, avec les 359 euros, ben, j'ai payé 159 euros. Puis ben, je paye une autre facture, je paye un petit peu celle-ci, un petit peu celle-là, un petit peu, ben, mais non, c'est plus possible. Alors qu'avant, ben, j'y arrivais, 359 euros, ben, j'aurais pu le consacrer à autre chose. J'aurais pu, mais non. Ben voilà, je consacre à qui? À Electrabel, NG Electrabel, à ces grosses sociétés qui, dans leur poche, tout simplement, mais non.
En Belgique, je veux dire, Electrabel a plus de pouvoir que tous nos ministres d'énergie réunis.
Hein. Comment?
Ça, je te jure bien que le CEO d'Electrabel, c'est lui qui décide de tout ce qu'on fait. Donc Electrabel gagne sur les subsides au gaz, et les centrales gaz, cling-ling, dans la pochette, quoi. Electrabel gagne sur les centrales nucléaires qu'on a déjà payées depuis des années, hein. Là, on a déjà, c'est tout amorti, quoi. Paf, 2,6 milliards de bénéfices dans les années à venir, prévision pour Electrabel. Et qui est-ce qui douille? Ben, c'est nous qui douillons. C'est nous qui payons.
Ouais, c'est tout dit, les petits cons spotch. Hein.
Non, ça devrait revenir un bon service public et avoir un bon contrôle dessus, quoi.
Et comment? Parce que c'est pas leur 6% de TVA, hein. Pendant 6 mois, 6%, ben, ça rime à quoi,
ça? Limité dans le temps. À la belle saison. À la belle saison.
C'est ça, c'est quand il fait beau qu'ils font la ristourne.
Moi, les radiateurs, tu sais, je les allume à 16 heures, hein. Les enfants sont à l'école. Quand les enfants sont à l'école, eh ben, on n'allume pas la chaudière, on n'allume pas les radiateurs, tout simplement. Ben, je mets un peignoir en plus et une écharpe, ben oui, ben voilà. Un peu à la zézette, hein, tu vois, comme dans Le Père Noël est une ordure, quand il met tous ses vêtements, ben c'est pareil.
C'est ça.
Vraiment
c'est ça,
zézette c'est à la ça. Maison.
Ben, sauf ouais, que là, ben, c'est la vraie vie.
Oui, c'est la vraie vie.
C'est pas normal.
On en vient, je veux dire, à en faire des choix, comme tu dis.
Oui, bien
tu
vois, sûr.
C'est soit je fais le plein, soit je mange, soit je fais un cadeau à mes gosses. Oui. Les vacances, oui, on parle même pas.
Il y a tout ça, ils nous ont vendu ça, ils nous avaient dit la libéralisation, quoi. La libéralisation, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est libéralisme, c'est-à-dire la liberté en fait d'exploiter, quoi, libéralisme. Par contre, dans la libéralisation, tu n'entends pas le mot socialisme.
Hein. Du tout.
Ça c'est
tout.
Clair, hein, parce que ça, c'est ça le problème. Que les partis de droite, ils sont pour la libéralisation et pour le fric à tout prix, on le sait. Mais les partis de soi-disant de gauche, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Il n'y a pas le mot socialisme dans la libéralisation. Hein. C'est
tout,
les idées de droite qui
tout.
Sont passées. C'est ça le problème, c'est que les pseudo-partis de gauche, ils ont laissé faire tout ça. Et c'est le problème des écolos, hein, qui croient qu'avec des subsides, avec des taxes carbone, avec des mesures qui collent sur le marché, hein, de l'offre et la demande, on va résoudre les problèmes écologiques et
pas
sociaux. Mais c'est faux. C'est faux. Je crois que le marché n'a pas vocation à résoudre les problèmes sociaux et écologiques. Le marché, il a vocation à faire du business et à faire des bénéfices. C'est pour ça le marché capitaliste. Donc moi, je crois que la remise sur pied d'un pôle public de production d'énergie verte, je crois que ce serait une urgence sociale et écologique qu'on devrait mettre sur pied.
Exactement.
Bah, oui, je suis d'accord aussi.
Une multinationale, ça fait pour faire du pognon. Hein. Aujourd'hui, ils sont dans l'énergie. Si demain, il faut faire du yogourt parce que ça rapporte plus, on se lance là-dedans.
Hein. Bah oui.
Exactement, exactement.
L'exemple de l'actualité, j'ai des camarades qui doivent dormir dans leur bagnole. Ils ont 400 euros par mois de supplément. De supplément. Et donc, ça devient vraiment une urgence. Quoi,
mais que tu as des gens en Belgique qui dorment dans leur bagnole parce que finalement, ils vont finir par les bosser uniquement pour payer le plein d'essence.
C'est
quand même fou, quoi.
Ça mène à des drames familiaux aussi.
Bah, écoute, moi,
ils ne voient pas les enfants, ils ne voient pas leurs femmes.
Mais comment c'est possible que les gens doivent faire des choix comme ça dans un des pays les plus riches du monde, quoi? Attends, c'est quand même ça, je veux dire, la Belgique, quoi. 4e économie européenne, je veux dire. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le politique, il laisse faire. Vous dites, oh, tu as le prix augmente. Oh, ben, ils s'en foutent, ils ont 10 000 euros par mois. Oh, tu as le prix augmente. Je veux dire, avec le PTB, on a une proposition simple. L'État doit intervenir. L'État doit bloquer les prix. C'est clair. Tu prends un arrêté royal, tu prends un arrêté, tu dis l'essence et le diesel, maximum 1,4 euros. C'est ça qu'il faudrait prendre comme mesure. Qu'on arrête de me dire qu'on ne peut pas prendre de mesures, c'est parce que le politique laisse faire, hein, qu'on bloque les prix. On a une proposition très simple avec le PTB qu'on met sur la table, blocage des prix pour l'énergie évidemment et pour les produits de première nécessité. C'est ça qu'il faut faire.
Écoute, moi je vais te dire même plus, Raoul. Mmh. Tu sais, ces dirigeants, c'est nous qui les payons, ce sont nos contributions, c'est avec ça qu'on les paye. C'est pas qu'ils sont à nos ordres, mais ils sont là pour nous servir.
C'est ça.
Non, il faut changer la donne à un moment donné, il faut qu'on reprenne la main là-dessus.
C'est vraiment une question de société, hein, ça.
Oui.
C'est à qui profite les richesses, hein, oui. C'est ça le choix. Hein. Soit c'est pour les travailleurs, et ça c'est notre vision du monde, nous, la vraie gauche, hein, avec le PTB, on dit c'est pour les travailleurs, soit c'est pour les exploiteurs, c'est pour les grandes multinationales, c'est pour les plus riches. Mais on ne peut pas rester aujourd'hui une société qui se polarise de plus en plus.
Aucun partage.
Non.
Il faut penser à tous ces gens qui ont des travaux d'intérim, etc. Ils sont pris une semaine. La semaine prochaine, c'est quoi? Mais en attendant, ces factures, ils arrivent.
Hein.
Son loyer tombe, l'électricité tombe. Mais il a encore cette incertitude de dire la semaine prochaine, j'ai peut-être plus de contrat, j'ai peut-être plus de rentrée.
Bien sûr. Bon, c'est les variables d'ajustement, hein. C'est ça le problème, c'est que les travailleurs commencent à être considérés comme des scotèques, c'est qu'on balance, variables d'ajustement, ah, la production a un problème, pouf, button, on fout dehors, ça ne va pas. Hein, ça.
Non, du tout.
Ça ne va pas. Ça pose vraiment la question aussi des salaires, hein, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il ne suffit pas d'avoir un boulot pour pouvoir payer sa vie. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, tu as plein de gens qui ont du boulot, mais qui ne gagnent pas assez. Hein. C'est la crise pour tout le monde, qu'est-ce que le gouvernement décide? Paf, on bloque les salaires.
Non,
on bloque les salaires. Combien est-ce qu'on a eu d'augmentation là?
0,4%.
0,4%, mais c'est vraiment se moquer des travailleurs. On se moque des travailleurs, 0,4%. C'est de l'aumône qu'ils ont donné.
Mais bien sûr, c'est des cacahuètes.
Parce que de notre côté, les CEO, là, hein, les dirigeants d'entreprise, il n'y a pas de problème.
Oui,
là, c'est open bar. Hein. Open bar, les salaires, ils augmentent. Tous les CEO sont en plein les poches. Mais par contre, les salaires des travailleurs sont bloqués. C'est une honte que ce gouvernement libéral dit bloque les salaires. Ce n'est pas pour rien que les syndicats sont en train de mobiliser maintenant pour revoir cette loi salariale. Hein.
Bien sûr.
Le blocage des salaires, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est inacceptable.
Ouais, et comment?
Mais ils sont arrogants parce qu'ils profitent aussi de cette peur, entre guillemets. Ah, parce qu'on est tenu par une certaine peur, je veux dire, du lendemain.
Mais tu sais, Gérard, moi, je crois que ce qu'il faudrait, c'est que la peur change de camp. Il est vraiment temps que la peur change de camp. J'en ai marre que ce soit les travailleurs qui doivent avoir peur de ne pas pouvoir finir les fins de mois, que les jeunes ont peur de leur avenir. Non, que la peur change de camp, que c'est les puissants qui ont peur. C'est nous qui produisons les richesses.
J'ai toujours... Les patrons, sans les ouvriers, n'existeraient pas. Mmh. C'est comme la terre sans le soleil, elle n'existerait pas.
C'est clair.
Donc voilà, c'est ça.
C'est clair. Ah, jusqu'à preuve du contraire, quand on a déjà pris un euro, qu'on met un euro dans le sol, ça ne donne rien.
Pas.
Ça ne donne rien. Hein. C'est le travail qui produit
bien
la richesse.
Bien sûr.
Tu as tout à fait raison. Hein. Je veux dire, et ça, les patrons, d'ailleurs, ils disent toujours, ouais, c'est nous qui créons la richesse, nous les
patrons.
Mais quand il y a grève, tu les vois tous en train de pleurer en disant, ça ne va pas, je perds de l'argent.
Il y a un bel exemple. Hein, si au niveau d'un comité de direction ou un patron, il peut partir une semaine en vacances, l'usine va continuer à tourner.
Bien sûr.
C'est ça.
Mais bien
si,
ça.
Si tu inverses les choses, si la production s'arrête une heure, l'usine ne tourne plus.
Voilà.
Donc,
voilà.
Qui est essentiel, c'est bien la classe travailleuse.
Exactement.
Hein. Je pense que les lignes commencent à bouger parce que les gens s'informent de plus en plus. Et ça, c'est important. Mm-hmm. Je pense que les gens commencent vraiment à comprendre parce qu'ils le vivent au quotidien. En fait.
Oui. Mm-hmm.
Quand tu dois commencer à te priver quotidiennement et priver déjà tes enfants, qui eux n'ont rien demandé. Ils mm-hmm. sont même pas encore au boulot et ils ont Ouh. Déjà des ennuis.
Mais je suis d'accord avec toi que j'entends de plus en plus que les gens s'informent différemment. Moi, j'entends de plus en plus oui, autour oui. de moi, que ce soit même des sujets, que ce soit maintenant comme la question de l'économie qu'on vient de parler maintenant, sur la guerre, je le sens de plus en plus aussi. Hein, parce que c'est incroyable, cette invasion illégale de l'Ukraine par Poutine. Bon, c'est dégoûtant. Hein, je veux dire, c'est vrai, drame humain, je veux dire, par millions. Enfin, c'est incroyable, cette décision-là. Oui. Mais bon. Il y a des enjeux du business derrière, hein, comme dans toutes les guerres. Hein.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on arrête de me dire, les guerres, ça se fait pour l'argent. Hein.
Écoute, ben...
Il y a le marché de l'armement, hein, spéculation sur l'énergie, etc. Ça, c'est sûr et certain. Mais on ramasse les effets de la guerre, on les ramasse en plein fouet. Ça spécule surtout, ça spécule aussi, pas que sur l'énergie, mais même sur l'alimentation.
Ben oui.
Si ça, c'est pas un besoin de base, on bloque le blé, le sucre, etc.
Ah, mais là, les spéculateurs dont tu parles, pour moi, c'est des profiteurs de guerre. Hein, parce
ouais,
que
c'est des requins.
Non, c'est des requins. Je veux dire, c'est aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont en train de se faire du pognon dingue, quoi, je veux dire, parce que c'est la guerre, parce que c'est la crise économique, il y en a qui se font du pognon.
Surtout.
Hein. Les multinationales du pétrole, tous ceux qui sont en train de spéculer sur le blé, sur des matières de première nécessité. Ouais. Et tout ça, on l'a vendu pourquoi ? Parce qu'on avait dit, ouais, le libre marché allait tout résoudre. Hein.
Ouais,
la loi de l'offre et la demande. Ouais, ben, la loi de l'offre et la demande, c'est faire crever les gens de faim. Hein.
Puis aussi, moi, en tant que mère, je veux dire, je serais une mère. Je suis la maman ukrainienne, la maman russe ou la maman, je veux dire, de toutes les nations, de tous les pays, envoyer mes enfants pour en faire de la chair à canon, c'est hors de question, parce qu'on sait toujours que dans les guerres, les riches envoient les pauvres et c'est les pauvres qui en pâtissent, tout simplement.
Ouais, c'est toujours comme ça, hein. C'est le combat des grandes puissances et qui est-ce qui paye, c'est les peuples.
Oui, tout le temps.
C'est toujours les peuples qui payent.
C'est un bel exemple, Jamila, parce que tu parles en tant que mère de tes enfants.
Bien sûr.
Et toutes les mères du monde, comme
bien
tu dis.
Bien sûr.
Et en tant que père, tu vois, tu parlais de la guerre, des effets négatifs de la guerre. Ben, au quotidien, j'ai un fils qui a la chance d'avoir ce contrat, CDI, qui n'est pas intérimaire, donc c'est déjà pas un contrat précaire. Ben, en fait, avec le prix de l'énergie, le coût de l'acier est monté aussi. Comme ils les appellent, évidemment, les investisseurs sont prudents, donc peu de commandes au niveau de l'usine, et se retrouvent au chômage. C'est un jeune qui n'a rien demandé, qui a aussi des traites à payer, qui se lance dans la vie. Bon, c'est un exemple que je donne. Mais
il y en a plein.
Il y en a plein.
Mais ça, c'est le problème aussi de toutes les sanctions qu'on parle maintenant. Hein. On veut arrêter la guerre à coup d'armement, à coup de sanctions, etc. Mais qui va payer ? Ça va être les travailleurs des deux côtés.
Hein.
Que ce soit en Ukraine, en Russie, en Europe, qui va payer ? C'est les travailleurs qui vont payer une nouvelle fois de plus. Hein. Aujourd'hui, c'est ça qui me révolte un peu dans cette guerre, c'est que soi-disant, je veux dire, les États-Unis veulent venir tout résoudre ici en Europe, bon, pas tourner autour du pot, hein, je veux dire, quand les États-Unis demandent d'avoir un embargo sur le gaz et le pétrole russe, et qu'est-ce qu'ils proposent les États-Unis en échange ? Ah, on va livrer à l'Europe le gaz ! Ouais, mais c'est quoi ? C'est du gaz de schiste ? Qui vont nous vendre, je veux dire, des milliards d'euros. Il faut arrêter, hein, je veux dire, c'est pas des ASBL qui sont en train de discuter ici, hein. C'est des grandes puissances qui sont en train de penser à une seule chose, c'est se faire du pognon. C'est toujours ça pendant la guerre, hein, je veux dire, c'est que les profiteurs de guerre vont se faire des milliards, dans le secteur pétrolier, dans le secteur de l'armement, dans le secteur de la spéculation, et les gens, les petits, vont mourir, les petits vont perdre évidemment des budgets sociaux, hein, parce que quand on va donner des milliards pour l'F-35, dans quoi on va couper, à votre avis ?
Dans les soins de santé.
Soins de santé, l'enseignement, l'argent public n'est pas destiné à ça. Tu parles des F-35, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a des contrats qui se passent, on en a pour des milliards, mais à long terme, ça coûtera encore plus cher. Il faut les entretenir, il y a des mises à jour, etc. Donc on est pieds et poings liés, entre guillemets, pendant 25 ou 30 ans, je veux dire.
Ouais, mais ça c'est le problème, c'est qu'on nous a dit pendant des années, pour les pensions, il n'y a pas d'argent. Pour l'école des gamins, il n'y a pas d'argent. Pour le social, il n'y a pas d'argent. Et puis ici, du jour au lendemain, on trouve des milliards pour aller acheter des F-35. C'est fou, c'est fou. Le point le plus important, c'est que le mouvement ouvrier doit se faire entendre. C'est au peuple de se faire entendre en bas, parce que sinon, il ne va pas avoir de paix. Quoi. Le mot d'ordre, le pain et la paix, ça a été un mot d'ordre qui a été lancé par le mouvement ouvrier dès qu'il y a eu des guerres. Hein. C'est pour ça qu'on doit imposer, je veux dire, d'avoir un cadre de négociation internationale pour pouvoir avoir une désescalade. Parce que si ça va escalader en grande puissance, on est parti pour une guerre mondiale. Hein. Et qui vont payer, c'est une nouvelle fois les peuples. Non, on doit vraiment reprendre, comme dans les années 60-70, ce mouvement pour la paix qui a mobilisé une des plus grandes manifestations en Belgique, dans l'histoire de Belgique. C'était les 400 000 personnes contre les armes nucléaires ici en Belgique. Nous, on veut le pain et la paix. C'est ça qui va déterminer l'avenir de l'humanité. Hein. Si on la laisse faire, là, au niveau du sommet, on est parti. Hein.
Mais oui.
On va pas éteindre un feu en aspergeant de l'essence.
Hein. Non, exactement.
Non, c'est ça, quoi. On a tous envie d'un avenir meilleur. Ouais. Bien sûr qu'on a envie de sécurité. Je me vois mal vivre en temps de guerre aussi. Hein.
On voit quand même que ça commence à bouger, que les lignes commencent à bouger, parce que déjà au niveau national, entre entreprises, ben, il y a déjà beaucoup plus de dialogue. Hein, donc tu sens que le rapport de force vraiment est en train de se construire. Mais quelques exemples, quand tu regardes Arcelor par exemple, ben, au niveau européen, si un blocage se faisait en Belgique, ça se poursuivait en France et ça commence à faire tache d'huile. Donc on sent vraiment qu'il y a une solidarité, même au niveau international, qui commence à prendre forme de plus en plus. Quoi. Ben, tout le monde vit la même réalité. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Tu as expliqué sur la solidarité internationale, mais ce que les délégués syndicaux à Amazon ont été remportés comme victoire.
C'est génial.
D'avoir réussi à implanter le syndicat dans une des plus grandes multinationales du monde qui n'en voulait pas de syndicat.
C'est un bel exemple, justement, de solidarité. Et on peut construire un rapport de force. Ouais. Même contre l'homme le plus riche du monde, il n'y a pas de... Ils l'ont prouvé tout à l'heure.
Je crois que cette dynamique mondiale, on le sent de plus en plus au niveau des travailleurs, que le rapport de force est en train d'augmenter. On a eu l'exemple en Belgique où la semaine passée, on avait ces formidables actions le 22 avril, quoi, une belle mobilisation dans toutes les régionales où les gens disaient clairement on n'en peut plus, on veut un changement du rapport de force. On a ce 1er mai évidemment où on va se remobiliser. Et puis le 20 juin, où une grande action syndicale
au niveau national
est annoncée, quoi, pour dire clairement non, ce qu'il faut maintenant, c'est bloquer les prix et pas nos salaires. Ça, c'est un bon mot d'ordre. Et moi, ça me donne espoir qu'on va pouvoir changer radicalement cette société. Parce que moi, je vois aujourd'hui qu'on arrive aux limites. Le capitalisme détruit des vies, le capitalisme détruit la nature, détruit l'écologie, détruit les acquis sociaux des gens. Et je crois qu'il y a un besoin d'aller vers une société qui vraiment détruit ce capitalisme et construit autre chose.
C'est pas le patronat qui va nous faire un cadeau. Hein. Si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Mmh. Ça, c'est sûr et certain.
Franchement, là-haut... Ils sont dans leur petite bulle, etc.
Ouais, c'est ça.
Et ils croient que ce système va pouvoir continuer comme ça, mais le système est en train de craquer. Et moi, je sens de plus en plus chez les gens une colère saine qui est en train de monter.
On le sent, hein.
C'est vrai.
Oui, on le sent.
Mais c'est pour ça que le 1er mai, on sera en rue. Et vous allez faire quoi le 1er mai? Vous allez en rue aussi?
En rue.
Ah, mais c'est bien.
Car la richesse, on l'a, bien sûr.
Bah, notre force est dans la rue. Hein.
À fond.
Et ensemble. On est plus fort qu'on ne le pense. Hein.
Ben, moi, je vous remercie en tout cas pour cette très chouette discussion. Elle m'a vraiment touché au cœur.
Ah, moi aussi.
Vous avez encore le temps de boire un petit verre ou pas au rendez-vous?
Oui.
Non, c'est vrai?
Oui.
Bien sûr, ouais.
Bon, on se prend une petite chopinette alors.
Allez, ça roule.
Gigi, tu peux nous mettre encore 3 chopes? Franchement, on va se faire plaisir encore. Merci.